Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Engendrer, non pas créer. Le texte du Concile de Nicée, comme celui de notre Credo, est très rapide sur Dieu le Père. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles. Il est beaucoup plus long sur le Christ, puisque c'est à son sujet qu'avait éclaté la dispute théologique entre les Ariens et le reste de l'Église. Le Concile dit « Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui, à cause de nous les hommes, et à cause de notre salut, est descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, et est ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts. » C'est une seule phrase, que la traduction française a été obligée de morceler en plusieurs phrases, mais qui est d'un seul tenant dans le texte original. Nous avons déjà constaté que le texte prenait grand soin d'accumuler les expressions tirées de l'Écriture, « Dieu de Dieu, lumière de lumière, etc. » Ces expressions sont déjà une prise de position sur le Christ. Par exemple, quand on dit « vrai Dieu né du vrai Dieu », il semble qu'on dise le contraire de ce que le Christ dit de lui-même dans sa grande prière sacerdotale, quand il appelle son Père « Toi, le seul Dieu, le vrai Dieu », Jean 17, 3. Encore un texte qu'on peut tirer dans un sens ou dans l'autre. En l'introduisant dans leur profession de foi qui affirme la divinité du Christ, les pères de Nicée sous-entendent que ce texte ne veut pas dire que le Père serait le seul Dieu et que son Fils ne serait pas Dieu. Désormais, on ne pourra plus l'interpréter dans ce sens qui irait contre la foi. Au nom de quoi un concile se permet-il de dire « Voilà la lecture juste d'un texte qui exclut des lectures allant en sens contraire. N'est-ce pas présomptueux de sa part ? Eh bien non. C'est simplement la mise en œuvre d'une certitude de foi, que le Christ a habilité son Église à interpréter de manière authentique sa propre parole. D'ailleurs, l'expression citée fait partie d'une phrase que je cite maintenant intégralement. La vie éternelle... C'est Jésus qui parle, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On voit par là qu'il est impossible de connaître le Père si on ne connaît pas celui qui l'a envoyé. L'envoyé n'est donc pas un simple messager extérieur à ce qu'il annonce, comme le porteur d'un courrier. Non, il fait lui-même partie du mystère qu'il transmet. Le connaître et connaître le Père, c'est une seule et même chose. Venons-en maintenant à l'expression « engendrer, non pas créer ». J'ai dit à ce sujet que les anciens, c'est-à-dire la pensée extérieure à la Bible, ne voyaient pas de différence entre ces deux verbes, et que les mythes païens imaginaient que tout l'univers était issu de l'accouplement de deux dieux, le ciel et la terre, qui auraient ainsi engendré tout ce qui existe. La Bible, au contraire, dès son premier verset, invente le mot « créer » pour désigner l'acte par lequel Dieu fait exister le ciel et la terre. Il y a donc d'un côté Dieu, et de l'autre tout ce qui n'est pas lui, humanité comprise. En créant, Dieu a en quelque sorte tiré l'échelle entre lui et tout le reste. Nous sommes créés, rien que créés. À cette lumière, on comprend que lorsque saint Jean nous dit que le Fils de Dieu, qu'il appelle le Verbe, est l'unique engendré, il souligne qu'il est radicalement du côté de Dieu et non pas du côté des créatures. En tirant l'échelle, Dieu a gardé son Fils de son côté et il nous a laissé de l'autre côté. À cela, les Ariens répondent toujours par le même refrain. « Oui, mais Dieu, c'est l'inengendré, celui qui n'a pas d'origine, et comme son Fils est engendré, il n'est pas vraiment Dieu. Il est seulement au-dessus des autres créatures, car lorsque Dieu a décidé de créer, il l'a créé en premier lieu et il s'est servi de lui comme d'un modèle ou comme d'un maître d'œuvre pour créer tout le reste. Il y a donc eu un temps où le Fils n'existait pas encore. Puis, à un certain moment, Dieu a décidé de le faire exister pour, en se servant de lui, faire exister tout le reste. L'explication des Ariens est ingénieuse, mais on voit qu'elle sous-entend que Dieu a d'abord existé sans son Fils et qu'à un certain moment, il a pris la décision d'avoir un Fils. Pour le Fils comme pour nous, il y a donc eu un avant et un après, pour Dieu aussi d'ailleurs. Avant, le Fils n'existait pas, et après, il a commencé à exister. Il n'est pas éternel. Pour mesurer l'enjeu de ces précisions, citons un document de l'époque, la profession de foi qu'Arius avait adressée, 5 ans avant Nicée, à son évêque Alexandre d'Alexandrie. Vous la voici. « La foi que nous avons reçue de nos ancêtres et que nous avons apprise de toi, bienheureux pape, la voici. Nous connaissons un seul vrai Dieu, seul inengendré, seul éternel, seul sans commencement, seul vrai, seul immortel, seul sage, seul bon, seul maître, souverain, juge, gouverneur de toutes choses. » Fin de citation. Dans ce texte, Arius utilise 9 fois le mot « seul » pour parler de Dieu. On voit bien que sa préoccupation est de le séparer du Fils. Son obsession est de dire « seul Dieu est Dieu », comme le fera l'islam 3 siècles plus tard. Ensuite, dans le même document, il parle tout de même du Fils. Il le fait en ces termes, je cite « Dieu a engendré avant les temps un Fils unique, par l'intermédiaire de qui il a fait les siècles et toutes choses. Il l'a engendré non en apparence mais en réalité, le posant dans l'être par sa propre volonté, immuable et sans changement, créature parfaite, mais non pas comme les autres créatures. » Fin de citation. Bien sûr, Arius prend soin de préciser que le Fils n'est pas comme les autres créatures, mais on voit que pour lui, il fait cependant partie des créatures. Et pour Arius, c'est très important, car si on disait que Dieu a un Fils égal à lui, eh bien cela voudrait dire que le Père est corporel et qu'il engendre comme nous-mêmes les hommes engendrons. Pourquoi cela ? Parce que dans notre expérience humaine, lorsqu'on engendre quelqu'un, on ne le fait pas à partir de rien, mais à partir d'une semence masculine et d'un ovule féminin. Qui dit engendrement sous-entend relation sexuelle entre 2 êtres corporels. Et c'est exactement le reproche que fera plus tard l'islam au christianisme. Si Dieu était père, pense l'islam, il serait corporel et il déposerait sa semence dans le corps d'une femme. Arius est bien obligé d'utiliser le mot « engendrer » puisque c'est un mot de l'Évangile. On le trouve chez saint Jean qui appelle le verbe « le Dieu unique engendré ». C'est en Jean 1,18. Mais Arius essaie d'expliquer le mot « engendré » en excluant que celui qui est engendré soit de même substance que celui qui engendre. Le Fils est donc bien Fils, mais il n'a pas, si l'on peut dire, le patrimoine génétique du Père. Il est bien au-dessus des créatures, mais il est plus proche des créatures que de Dieu lui-même. Je cite de nouveau Arius. Le Fils n'est pas une émission du Père, ni une production consubstantielle au Père, car alors, il faudrait admettre que le Père est composé, divisible, soumis au changement, et d'après eux, corporel, lui, le Dieu incorporel. Fin de citation. En définitive, Arius refuse l'idée d'engendrement parce qu'il la pense à partir de l'expérience humaine marquée par la dimension corporelle. L'audace de Nicée, c'est au contraire d'affirmer que l'engendrement est d'abord un acte divin et que ce que nous apprend notre expérience humaine n'est qu'une image déficiente de l'engendrement. Il s'ensuivra que la paternité elle-même est d'abord divine et que l'expérience humaine de devenir parent n'est qu'une image déficiente de la paternité de Dieu. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour le moment, retenons que le Concile de Nicée a eu l'audace de distinguer pour la première fois dans l'histoire de la pensée 2 actes divins de production, l'engendrement, par lequel Dieu de toute éternité fait exister un autre lui-même, et la création, par laquelle Dieu, en faisant advenir le temps, fait exister un autre que lui-même. Créer, c'est faire exister un autre que soi, alors qu'engendrer, c'est faire exister un autre soi-même.